Dissonance.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Sainte-Afrique.
Personne ne se souvient de leur nom, mais je sais qu'ils habitaient Belleville. Personne ne se souvient de leur nom, mais je peux vous dire qu'ils vivaient près du jardin des plantes, un tailleur de pierre qui pratiquait la boxe française. Personne ne se souvient de leur nom, et pas vraiment d'eux non plus, eux du 18e arrondissement. La cuisinière qui n'aimait pas le vin, mais ne crachait pas sur un verre de rhum.
Personne ne se souvient de leur nom, mais je vais vous dire un ou deux mots de cette brocheuse qui raffolait des pieds de cochon grillé et qui avait un carnet dans lequel elle notait ce qu'elle faisait ou pensait. Le carnet aussi a disparu.
Une petite foule de personnages, Marthe, Paul, Maria, Floris, vivent, aiment, espèrent, travaillent, écrivent, se battent, enfermés dans Paris, pendant les 72 jours qu'a duré la commune de 1871.
C'est leur histoire que va nous raconter Michel Audin.
Aujourd'hui, il sera question de « Comme une rivière bleue », le dernier roman de Michel Audin, édité en août 2017 chez Gallimard, collection L'Arbalète.
Dans cette émission, il sera question de la Commune de Paris de 1871 et aussi de l'Oulipo et de la guerre d'Algérie.
Dans Dissonance, Michel Audin nous invite tout d'abord à marcher à côté de quelques-uns des obscurs qui fabriquent cette révolution qui passe tranquille comme une rivière bleue.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel Audin, tu es un personnage à facettes multiples, mathématicienne de renom, pour certains, fille de Maurice, ce qui nous renvoie à la guerre d'Algérie, pour les plus anciens, passionnée de littérature au point de te fixer des contraintes d'écriture, ce qui t'a fait rejoindre l'Oulipo en 2009, et au point aussi d'avoir édité chez Gallimard 6 romans en 10 ans, si je ne me trompe pas. Pour moi, Michel Audin, sans connaître tout ça, tu étais d'abord la pianoteuse de clavier informatique qui, au fil des jours, édifie un blog d'une richesse incroyable sur un événement qui me tient à cœur, la Commune de Paris en 1871. Des textes fouillés, aux références historiques rigoureuses, des textes vrais et surtout sensibles. Et c'est sur ton blog, Ma Commune de Paris, que j'ai lu que tu venais de publier un roman chez Gallimard, Comme une rivière bleue, sur ces 72 jours de l'année 1871. Je me le suis procuré, je l'ai dévoré, j'y ai retrouvé la rigoureuse passionnée de maths, la joueuse de mots et la férue d'histoire populaire. Pour paraphraser une communarde dont le nom est resté dans l'histoire, à savoir Louise Michel, dans ton livre, tu as voulu tout à la fois les arts, les sciences, la littérature et la vie. Alors Michel, par quelle facette t'aborder ? Alors je me lance. La Commune de 1871, pourquoi y porter un tel intérêt ?
C'est un événement historique rare dans l'histoire de France. C'est un moment où des personnes qui n'ont pas d'histoire, comme on dit, se mettent à faire l'histoire elles-mêmes. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. C'est la population de Paris, disons le peuple de Paris, ou les ouvriers, les ouvrières de Paris, des gens qui ont toujours été méprisés, la ville multitude, tout d'un coup prend la parole et le pouvoir et essaye de construire une vie un peu différente.
Ça a été quoi l'accroche au départ ? Des lieux, comme ce mur des fusillés, des personnages ?
C'est quelque chose que je connais depuis toujours. J'ai participé à des manifestations pendant le centenaire, au moment du centenaire de la Commune. En 1971, j'avais 17 ans. Et
donc déjà adolescente, tu allais au mur des fédérés, on en parlera tout à l'heure.
D'accord. J'ai été élevée dans une famille communiste et ça faisait partie de mon patrimoine génétique.
Donc cette culture communiste t'a fait intéresser à cette période.
Quoi. En général, si les gens savent quelque chose sur la Commune de Paris, ils savent qu'il y a eu des massacres. Bon, et c'est pas ça que je voulais raconter, bien entendu. Donc, je vais peut-être faire un petit point historique rapide. Donc, ça commence par 20 ans de Second Empire.
Le Second Empire, ce sont les années ?
Ça commence en 1851 et ça dure jusqu'en 1870. Et c'est le régime policier, l'État policier, le régime policier le pire que la France ait connu, sauf peut-être Vichy. Il n'y a aucune liberté, il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas de liberté de réunion, il n'y a pas de, pas de droit de grève, sauf à la fin, quand l'Empire est obligé de lâcher du lest. Les journalistes sont mis en prison tout le temps, les ouvriers aussi, ceux qui se déclarent républicains. Donc c'est un moment très, 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 très dur, en fait. Puis, ce moment très dur, il y a une sorte de paroxysme qui est la guerre de 70 qui se conclut par le siège de Paris. Donc l'Empire, pour des raisons de politique intérieure, décide d'attaquer la Prusse. Puis c'est une catastrophe militaire. Et le 4 septembre 1870, après que l'empereur ait été fait prisonnier par les Prussiens, la République est proclamée à Paris.
Parce que les Prussiens sont rentrés en France au cours de Paris.
Voilà, donc ils ont occupé vraiment tout l'est de la France et puis sont arrivés autour de Paris, bien sûr. Donc à ce moment-là, il y a un gouvernement républicain qui s'installe, qui est élu par personne, qui est juste ceux qui étaient là à ce moment-là. Et puis la ville est assiégée. Donc il y a un siège qui dure pendant 5 mois et qui a un moment épouvantable où la ville est vraiment assiégée. Il n'y a aucune nourriture qui entre dans la ville. En plus, il fait très très froid. La Seine a gelé pendant 3 semaines cet hiver-là. Donc bon, les gens n'ont rien à manger. Ils sont organisés dans la garde nationale, qui est une sorte d'armée locale de Paris, dans laquelle tous les hommes parisiens entre 18 et 40 ans, je crois, sont incorporés avec des équipements de qualité diverse, mais ils sont incorporés. Et il s'agit de défendre Paris, en fait. L'armée n'a pas très confiance. On n'a pas tellement confiance en la garde nationale parce que c'est des ouvriers qui sont là et qui, en principe, étaient destinés à attaquer les Prussiens, à défendre la ville contre les Prussiens. Mais bon, ils n'ont pas beaucoup été utilisés pour ça parce que les cadres de l'armée n'avaient aucune confiance en eux et les ouvriers avec des fusils, ils n'aimaient pas trop. Voilà. Et donc, c'est comme ça que se déclenche ce qu'on a appelé la révolution du 18 mars, qui est une drôle de révolution, en fait, parce qu'il n'y a pas de révolution. Le gouvernement a capitulé, le siège est levé, les Allemands même viennent occuper Paris pendant un jour, et la garde nationale, qui a quand même payé ses canons, a très très peur que les canons soient pris par les Prussiens et donc les a mis de côté dans des endroits qu'elle pouvait garder, c'est-à-dire les quartiers ouvriers de Montmartre, de Belleville, sur les hauteurs de Paris. Et bon, le gouvernement, qui ne supporte pas l'idée que des ouvriers soient armés, décide de reprendre, parce qu'ils sont, à eux, de leur prendre les canons. Et puis ça rate. L'armée, y a un régiment qui met crosse en l'air, qui fraternise avec la population de Montmartre, des femmes de Montmartre. Et Thiers, suivi par son gouvernement, se débine, comme dit un personnage du livre, se débine à Versailles. En résumé, là, c'est lui qui est le chef du gouvernement. Il décide de quitter Paris, il emmène avec lui le gouvernement, l'administration, tout, et tout est vide. Et donc, le pouvoir est à prendre. Et finalement, la garde nationale, qui a élu un comité central au mois de février et mars, décide à aller occuper les lieux, c'est-à-dire aller occuper toutes les places du pouvoir, les ministères, l'hôtel de ville, qui est le lieu du pouvoir à Paris, etc., etc. Et voilà, c'est ça qu'on appelle la révolution du 18 mars.
À part deux personnes, je crois, qui ont été tuées, ou trois. C'est une révolution non violente.
Voilà, donc
c'est une prise de pouvoir.
Non, ils ont juste le pouvoir est à prendre, les places sont libres. Voilà. Puis en plus, géographiquement, c'est assez intéressant parce que ces ouvriers, cette garde nationale, elle est sur les hauteurs de Paris et puis les places à prendre sont dans le centre de Paris, au milieu, qui est bas. Donc il n'y a qu'à descendre et puis on arrive, on occupe le pouvoir. Il y a deux généraux qui sont exécutés à Montmartre. Donc le général qui commandait ce régiment qui devait prendre les canons, qui est fusillé par ses propres soldats, mais c'était quelqu'un de... Bon, je ne dis pas qu'il faut tuer les généraux, mais celui-là n'était pas quelqu'un de particulièrement sympathique. Il avait été odieux avec ses soldats, et c'est pour ça qu'il a été fusillé. Et puis un autre qui traînait par là, qui était un qui avait fait ses armes en juin 48 en tuant des ouvriers déjà, et qui était là, qui est passé par là en civil en prenant des notes, et ça a pas plu à la foule, qui donc l'a inclus dans l'exécution du premier. À vrai dire, la commune entre guillemets qui à l'époque à ce moment-là n'existe pas, et même le comité central de la garde nationale, ils sont pour rien. Bon, c'est pas. Il y a aussi un garde national qui a été tué à ce moment-là. On n'en parle pas beaucoup, un dénommé Turpin.
Il y a 100 ans, commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune. En écoutant chanter Potier, il y a 100 ans, commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune, en écoutant chanter Clément. C'était des ferriers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles. C'étaient des forgerons devenus des moblots. Il y a 100 ans, commune, comme artisans et ouvriers, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commune, comme ouvriers et artisans, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Clément.
Dissonance
avec
Michel Audin
sur Radio Sainte-Afrique.
Et donc, on va les appeler les communards, parce que je crois que c'est un terme péjoratif, mais on va les appeler les communards pour faire simple. Les communards se retrouvent dans Paris, ils ont les armes, ils vont faire front aux Prussiens, mais quel est l'objectif des gens qui vont élire et qui vont constituer un conseil de la commune? Est-ce que c'est battre les Prussiens? Est-ce que c'est faire... une commune avec des privilèges abolis, ou est-ce que c'est faire une révolution sociale?
Alors ça, c'est très compliqué. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand le 4 septembre, quand la République a été proclamée, ce gouvernement qui n'avait aucune légitimité, puisqu'il n'avait pas été élu, avait promis qu'il y aurait un conseil municipal élu à Paris. Il faut savoir que le Second Empire avait évité les conseils municipaux dans les grandes villes, donc il n'y avait pas de conseil municipal élu à Paris. Il n'y avait même pas de maire. Le premier maire de Paris élu a été Jacques Chirac en 1977. Voilà. Donc, à l'époque, c'était une revendication forte. Il y avait les revendications de rationnement de la nourriture pendant le siège, mais aussi l'élection d'un conseil communal. Et c'était ça la commune de Paris. Quand on réclamait la commune, ce qu'on réclamait, c'était l'élection d'un conseil communal. Et donc, ces gens qui ont pris le pouvoir, que tu appelles des communards, mais pour l'instant, c'est juste le comité central de la garde nationale. On sait pas. Donc, ils arrivent là, et puis, ce qu'ils ont de plus pressé à faire, c'est d'organiser ces élections. Et puis alors, ils sont manipulés par les maires d'arrondissement, par la bourgeoisie parisienne, et du coup, ça traîne un peu, les élections, ça met un peu de temps. Elles n'ont lieu que le 26 mars, et entre-temps, entre 18 et 26 mars, il ne se passe pas grand-chose, en réalité. Et pendant ce temps, à Versailles, les autres, ils sont en train de réorganiser leur armée et puis d'essayer de récupérer ceux de leurs officiers qui ont été faits prisonniers par les Prussiens pour qu'ils puissent servir contre la Commune. Donc, pour l'instant, à Paris, ce qu'on veut, c'est... on est content parce qu'il n'y a plus de policiers. Les sergents de ville sont tous partis à Versailles, donc on est content. Il y a eu un hiver terrible, mais il y a un très beau printemps, donc on est content aussi. Et puis, on organise des élections. Et on est content aussi. Mais on ne sait pas trop vers où on va. Évidemment, parmi ces gens-là, il y en a beaucoup qui veulent une révolution sociale. Mais ce n'est pas complètement clair au début.
Et justement, Le titre de ton livre, « Comme une rivière bleue », fait référence à ces élections.
Voilà, donc le jour des élections, Jules Vallès, qui est un journaliste, qui est à l'époque un journaliste favorable évidemment à la Commune, et qui est rédacteur en chef du journal Le Cri du Peuple, passe dans la rue le jour des élections, qui considère lui comme vraiment le jour de la Révolution, et il écrit un éditorial dans lequel il dit « Le murmure de cette Révolution qui passe tranquille et belle comme une rivière bleue ». Et c'est une très très belle image qui va bien à Vallès, parce que c'est quelqu'un qui vient du Massif central et qui est très sensible à la nature et aux rivières bleues, et puis qui va bien pour décrire ce qu'était vraiment ce mouvement. On pense au massacre, mais c'est pas vrai, ça a commencé comme une rivière bleue.
Voilà. Ouais, je peux me permettre de lire le texte de Vallès ?
Vas-y.
Que tu as cité dans ton livre.
Vas-y.
Quelle journée ! Ce soleil tiède et clair qui dore la gueule des canons, cette odeur de bouquet, le frisson des drapeaux, le murmure de cette révolution qui passe tranquille et belle comme une rivière bleue. Ces tressaillements, ces lueurs, ces fanfares de cuivre, ces reflets de bronze, ces flambées d'espoir, ce parfum d'honneur, il y a de quoi griser d'orgueil et de joie l'armée victorieuse des Républicains. Un conseil de la Commune est élu et il va avoir un programme social très intéressant.
Alors, il commence par les trucs urgents, les trucs sociaux urgents que le gouvernement n'a pas jugé utile de prendre en compte, qui est le fait que, bon, la ville est assiégée depuis le mois de septembre, donc il n'y a plus aucune activité économique dans cette ville. On a fabriqué des canons, mais c'est plus ou moins tout ce qu'on a fabriqué. Donc, les gens n'ont pas de travail, les gens n'ont pas d'argent. Dans le meilleur des cas, ils sont gardes nationaux et ils touchent 1,50 € par jour, les fameux 30 sous dont on a parlé. Pas nous, mais dont il a été question. Et donc, c'est pas grand-chose. Et donc, personne ne peut payer ses loyers. Donc, ils font un moratoire sur les loyers. Donc, on paye plus de loyer. Donc, on payait le loyer tous les 3 mois, au terme, en octobre, janvier, avril, etc. Et donc, ils annulent tous les 3 termes précédents. Donc, octobre, janvier, avril. Ils annulent aussi la vente des objets déposés au Mont-de-Piété. Donc les gens qui avaient besoin d'argent pour acheter, on ne sait pas trop quoi, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à vendre, ils ont mis au Mont-de-Piété des objets dont ils avaient vraiment besoin, des objets de première nécessité. Ils ne peuvent pas venir les retirer parce qu'ils n'ont toujours pas d'argent, donc ils vont être vendus, donc on annule les ventes. Donc bon, c'était des choses d'extrême urgence qui étaient vraiment très importantes pour la population. Et puis, petit à petit, après, au fil des réunions, donc ça commence, la première réunion a lieu le 28 mars, après une fête fantastique sur la place de l'Hôtel de Ville. Et puis après, il y a des réunions comme ça, une ou deux ou trois fois par jour même, jusqu'à la fin du mois de mai, enfin jusqu'au mois de mai. Et au cours de ces réunions, il y a certaines mesures sociales qui sont évoquées, décidées. Donc, en effet, oui, on va vers une révolution sociale. Mais ils n'ont pas eu beaucoup de temps, donc ils n'ont pas pu faire grand-chose.
Mais ils ont préfiguré parce qu'ils ont pensé, notamment sur la séparation de l'Église et l'État, sur au niveau de l'éducation, au niveau du travail aussi. Ils ont anticipé des choses qui vont se voir construire des années plus tard, bien plus tard.
Bon, moi, la séparation de l'Église et de l'État, c'est pas ce que j'appelle une mesure. C'est pas ce que j'appelle la révolution sociale. C'est une mesure qui est vraiment importante. Mais ça, bon, en gros, ça veut dire qu'on paye plus les curés à Paris. Hein, c'est ça que ça veut dire. C'est pas absolument sûr qu'un conseil municipal ait droit à légiférer là-dessus. Mais bon, ça fait plaisir à tout le monde. Alors bon, tout va bien. Après, faudra attendre 1905 en France pour séparer l'Église et l'État. Si tant que ça soit vraiment fait. Parce que bon, on a quand même beaucoup de deuils nationaux qui se font à Notre-Dame, à Paris, quoi. Il y a des messes. Bon, passons là-dessus. Donc, l'éducation, ça c'est très important. Et puis, ce qui est bien avec l'éducation, c'est que c'est un sujet sur lequel tout le monde est d'accord. Donc là, il n'y a pas... L'école est faite en général par des curés. Donc voilà, il faut mettre en place une école qui soit, et puis c'est payant, il faut mettre en place une école qui soit laïque, qui soit gratuite et qui soit obligatoire. Et puis si on est vraiment progressiste, qui inclut aussi la formation professionnelle. Mais sur le fait d'avoir une école gratuite, laïque et obligatoire, tous les républicains sont d'accord pour ça. Donc ça, c'est pas vraiment ce que j'appelle une mesure sociale non plus. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que ces lois, quand elles vont être appliquées, enfin promulguées pour la France entière, elles vont porter le nom de Jules Ferry, qui a joué quand même un rôle assez détestable dans toute cette histoire. Mais passons. Par contre, il y a des mesures qui sont vraiment des mesures sociales, comme on décide de réquisitionner les ateliers qui ont été abandonnés par les patrons qui se sont débinés aussi à Versailles, et puis de les faire gérer par les ouvriers. En fait, ça n'a pas eu le temps d'être vraiment appliqué, mais bon, il y a des mesures de ce genre qui ont été prises. Et puis, une chose qui a l'air de rien, mais qui est au niveau symbolique très importante, qui est l'interdiction du travail de nuit des ouvriers boulangers, qui a été un moment où il y a eu un débat dans cette assemblée communale qui était vraiment un débat très intéressant au niveau politique, parce que la question était de savoir si c'était quelque chose qui se négociait entre les patrons et les ouvriers, ou bien si c'était une mesure d'intérêt général qui devait être discutée dans un endroit comme la Commune de Paris ou une instance élue, quelle qu'elle soit. Et donc là, il y a un débat tout à fait intéressant à ce sujet-là. Donc ça...
Alors c'était un moment où tu en parles beaucoup dans ton livre, puisque j'aurais envie de dire que Vallès lui résumait la Commune de 71 en trois mots: la défaite, la révolte et le massacre. Moi je dis que tu en ajoutes un quatrième, c'est la fête. Mais il n'y avait pas que la fête, il y avait cette ambiance de... cette espèce de bouillonnement où il y avait beaucoup de gens qui se réunissaient dans les clubs pour discuter, et notamment beaucoup de femmes. Je pense que les femmes ont eu aussi un rôle, pas que pour discuter, mais intéressant à cette époque-là.
Voilà, donc là, on vient de parler du niveau, entre guillemets, de l'Assemblée communale, mais en fait, il y a une activité révolutionnaire vers la révolution sociale partout dans Paris. Donc, en particulier, dans Paris, il y a beaucoup d'églises, et donc c'est des lieux de réunion tout à fait intéressants. Donc, par exemple, dans le livre, j'ai raconté ce qui se passe au club Ambroise, qui est dans l'église Saint-Ambroise. On n'avait pas besoin du Saint. Dans le 11e arrondissement, c'est un endroit intéressant parce qu'on a des archives de ce qui s'est passé dans ce club. On sait exactement. Et puis, ils ont même publié un journal qui s'appelle Le Prolétaire. Le dernier journal qui est paru à Paris pendant la Commune. Et donc, voilà, ça se passe comme ça. Bon, dans la journée, on laisse l'église au curé. Et puis, après-midi... on arrive à l'église, donc il y a des femmes avec des fois des enfants sur les bras, il y a des hommes qui fument la pipe, qui gardent leur chapeau sur la tête, il y a des culots de pipe partout, on mange du saucisson, on boit du vin, etc. Donc bon, des trucs qui sont vraiment faits pour choquer les curés, et ça marche. Et puis il y a des femmes qui montent à la tribune en chaire, là où le curé va faire son sermon, il y a une femme qui monte et qui prêche la révolution sociale et qui dit qu'il faut tuer les curés, par exemple, ou des choses comme ça, mais aussi des choses plus intéressante que tuer les curés. Bon, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la vie, etc. Donc, c'est des lieux en même temps, ça se fait dans la joie et ça se fait dans la bonne humeur et ça se fait de façon vraiment très publique, quoi. Il y a beaucoup de monde qui vient. Il y a un prêtre après qui a écrit un livre sur les églises de Paris pendant la Commune, qui est une source absolument géniale, où il raconte, évidemment, lui, il est outré par tout ça, mais il raconte que il y a une blanchisseuse qui vient parler, quoi. Vous vous rendez compte? Mais bon, c'est assez intéressant.
Je viens de croiser une carmane. Ta voiture préférée, Pacific Boulevard, de semaine à LA. Pour faire mes voix, tu te serais moqué de moi. Ce matin, j'irais bien surfer plutôt que de chanter. Mais tu es parti. Oui, tu es parti. Ça fait bientôt 20 ans. J'entends un disque, j'ai envie de t'appeler pour avoir ton avis, même si je le connais. Ce matin, j'ai envie de relire les souffrances du jeune Werther, car tu es parti. Oui, tu es parti. Heureusement, tu ne vois pas comment je joue de la guitare. Ça t'énerve. mais tu sais, je fais de mon mieux. J'espère que tu es fier de moi, même si tu le dirais pas. De toute façon, t'es toujours là, même si ça ne s'explique pas. Même si ça s'explique pas.
Dissonance
avec
Michel Audin.
Peut-être qu'on n'a pas prononcé le mot-clé de cette, qui est le mot roman. Donc ce livre est un roman, ce n'est pas un livre d'histoire de la Commune de Paris. Il est documenté comme si c'était un livre d'histoire, tout ce que je raconte est vrai, sauf que c'est un roman. Donc
l'idée, roman c'est avec un narrateur.
Avec un narrateur et avec des personnages, le narrateur étant lui-même un personnage du livre, c'est sauf qu'il s'appelle Jeu, quoi. Voilà. Donc, il y a un narrateur qui est quelqu'un de maintenant, de notre époque. Il marche dans Paris, dans le Paris d'aujourd'hui, avec ses pieds dans le Paris d'aujourd'hui et sa tête dans le Paris de 1871. Et il rencontre des gens de cette époque, et puis des gens de notre époque aussi. Et puis surtout, il y a des personnages de la commune. Donc, il y a des ouvrières, il y a des journalistes. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, comme les journaux, il n'y avait pas de liberté de la presse. Il y avait beaucoup de journalistes qui étaient quand même très actifs, des républicains très actifs et très militants. Donc, les journalistes jouent un rôle important dans la commune de Paris. Pas que Vallès, il y en a d'autres. Voilà. Donc, il y a beaucoup de ces personnages. Et puis, bien sûr, ils font la fête. Et donc, ils dansent.
Je rajouterai un personnage aussi qui, pour moi, a été très parlant, ce sont les lieux.
Voilà, donc
les lieux, les rues de Paris, oui. Les maisons, les façades, les places, les cimetières.
Voilà, donc c'est bon, je voulais écrire sur la quatrième de couverture du livre que c'était un roman historique et géographique, mais
oui,
mon éditeur voulait pas mettre roman géographique, il trouvait que ça faisait voilà. Bon, alors donc c'est un roman géographique,
un roman déambulatoire.
Donc là je me suis une des sources de ce livre, c'est un livre de Prosper Olivier Lissagaray, qui est un journaliste communard et qui a écrit après la Commune. Il a réussi à partir en Angleterre et il a écrit d'Angleterre un livre qui s'appelle L'histoire de la Commune de 1871, qui est un de mes livres de chevet et une de mes sources pour l'histoire de la Commune. Et donc j'ai fait de ce Lissagaray un personnage du livre, et lui il était à Londres et puis en réalité il rêvait de Paris. Donc le livre est vraiment géographique. En particulier, il y a un chapitre dans ce livre qui s'appelle Paris la veille de la mort, où il raconte qu'il est avec un ami et il se promène avec lui dans Paris et lui montre ce qui se passe à Paris juste avant la semaine sanglante. Et je me suis inspirée de ça parce que j'ai aussi un chapitre 25 qui s'appelle Paris la veille de la mort et c'est mon narrateur qui est avec
lui. Voilà, c'est étonnant. C'est le personnage de 2017 qui marche avec le personnage de 1871.
Voilà, donc il le suit en lisant son livre et en marchant dans Paris avec lui. Donc bon, j'étais vraiment inspirée par ce livre. Ça n'arrive qu'au chapitre 25, mais c'est le premier chapitre que j'ai écrit dans ce livre.
Pourquoi avoir utilisé l'angle du roman pour parler de la Commune, alors que tu as toutes les qualités aussi pour le faire sous le côté historique ?
D'abord parce que les meilleurs livres que j'ai lus sur l'histoire de la Commune sont écrits par des écrivains. En fait, c'est surtout le meilleur livre que j'ai lu sur l'histoire de la Commune est écrit par un écrivain. Je pense au ce dictionnaire de la Commune de Bernard Noël, qui raconte l'histoire de la Commune par ordre alphabétique d'une façon... tout à fait passionnante. Et puis aussi parce que je pensais que... Bon, il y a une grande époque où on a beaucoup parlé au moment du centenaire de la Commune surtout, et autour, on a beaucoup étudié les idées des communards. Et c'est très intéressant, il y a des tas d'études très intéressantes, mais il manque un peu la dimension, je dirais, humaine des personnages moins connus, pas connus, inconnus. Et donc, moi, j'ai essayé de comprendre comment ils vivaient, comment ils étaient habillés, comment ils vivaient, comment ils faisaient l'amour, la vie quotidienne de ces personnages. Et pour ça, je vois pas comment faire autrement que de passer par la littérature, qui apporte quand même peut-être quelques éléments à l'histoire.
Oui, donc, qui apporte ces éléments-là, excuse-moi de te couper, Michel, mais aussi qui nous rapproche. Tu es arrivé, en utilisant l'artifice du roman, à rendre... lisible, quelque chose de complexe, parce que la Commune, c'est quand même pas facile. Et en tout cas, on nous a pas donné les moyens de l'appréhender. Et avec ton roman, en étant proche des gens, de leur vie, de leurs coutumes, de leurs habits, de leur raison d'être et de leur façon d'être, on rentre dans cette Commune de façon aisée.
Ben, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a un narrateur. le narrateur, il permet d'être de pas sentir qu'on a un auteur qui est quelqu'un qui a étudié l'histoire et qui est omniscient, qui sait tout et qui va tout. Le narrateur, il dit jeu, il raconte l'histoire et il est avec les personnages. Il est avec eux dans tous les sens du terme. Je veux dire, il est avec eux, évidemment, il les soutient, mais il est avec eux. Il marche avec eux dans la ville, il va avec eux au concert, il tombe amoureux d'une d'entre elles, voilà. Donc, c'était ça l'idée de ce roman, c'était d'être avec les gens.
Oui, parce que des gens, l'histoire, parce que malheureusement on n'en a pas parlé, mais ton livre se finit mal.
Cette ça, j'y peux rien. Mal,
puisque, ben voilà, tu n'y peux rien, mais voilà, il y a cette dimension massacre, et tu vas nous en parler de cette dimension massacre, mais de l'histoire, on retient à peu près, on va dire, de la commune, allez, une centaine de noms, on va dire, mais il y avait 30 000 personnes, ou même plus, qui étaient impliquées dans cet événement, ce que tu appelles, toi, un événement, quoi. Et c'est bien de leur donner vie à tous ces gens-là. À tous ces gens qui étaient en train de se bagarrer, de faire la cuisine, de monter les barricades ou tout simplement de faire vivre leurs enfants.
Bon, alors, il y a une, on va pas discuter sur le nombre des morts. Donc, il y a eu une enquête juste après, gouvernementale et parlementaire qui a conclu qu'il y avait eu 17 000 morts.
Oui, parce que expliquer, on n'a pas dit, les Versaillais, un jour, ils sont rentrés.
Ouais, alors voilà. Donc, tout le monde était au concert et ils sont rentrés dans Paris et puis ils ont massacré. Ils ont vraiment massacré des gens de façon complètement inutile, gratuite, quoi. C'était pas la peine. Voilà. Donc, mais il fallait faire un exemple, quoi. Donc,
ça leur a pris 8 jours.
Donc, ils ont pris le temps de le faire tranquillement. Ils ont avancé lentement. Ils ont pris le temps. Ils sont arrivés dans l'ouest de Paris. Ils ont balayé Paris jusqu'au nord-est. Et voilà.
C'est ce que les historiens appellent la semaine sanglante.
Voilà. Ça commence le 21 mai et ça finit le 28 mai. En fait, certains disent le 29 mai parce que le fort de Vincennes était toujours occupé jusqu'au 29 mai par des communards. Toujours est-il qu'il y a une bataille de chiffres. Donc, il y avait un chiffre officiel qui était 17 000 morts et disparus. Il y a eu ensuite, dans les années 1879-80, juste avant l'amnistie des communards, un livre de Camille Pelletan qui s'appelle La semaine de mai. Lui, il a compté qu'il y avait dû y avoir 30 000 morts. Il y a beaucoup d'historiens maintenant très révisionniste qui explique qu'il n'y avait jamais eu plus de 5000 morts. Mais enfin bon, donc on ne va pas discuter ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu 36 000 personnes qui sont passées en procès. Donc ça, on ne peut pas nier. Et que donc on pense qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient impliqués dans cette histoire de Commune de Paris. Je ne me rappelle plus quelle était la question. Ah, les massacres, oui. Alors, c'est difficile d'écrire sur les massacres. Moi, ça ne m'intéressait pas. Ce que je voulais, c'était raconter avant, mais en même temps, c'est impossible de ne pas parler des massacres. Donc, je vais vous dire, j'ai voulu en parler avec le plus de sobriété possible, et j'ai été pour ça influencée, aidée par un texte tout à fait inconnu, pourtant publié, d'un membre de la commune qui s'appelait Albertès, qui est celui qui s'est occupé des postes, qui était un ciseleur, membre de l'Internationale, et il a écrit une petite... en revenant, il a fui à Londres, et arrivé à Londres, il a écrit un petit résumé de ce qu'il avait vu pendant la semaine sanglante. Donc ça, c'est un témoignage, on n'en a pas beaucoup. Et par exemple, il était là quand Dombrowski, donc c'était un général de la commune, d'origine polonaise, enfin polonais, qui était général de la commune, qui a été tué sur une barricade à Montmartre. Et il était là quand Dombrowski a été tué. Donc c'est quelque chose dont on a fait beaucoup d'histoires parce que il a été tué, il avait été accusé de trahison, c'était triste de qu'il soit tué, tout le monde est venu le saluer, on a exposé son corps à l'hôtel de ville et puis après on l'a enterré et puis c'était les dernières, une sorte d'enterrement de la commune en fait. Le dernier enterrement au Père Lachaise comme ça. Donc il y a toute une hagiographie autour de ça et Albertès raconte ça comme ça. Il dit il arrive, les gardes l'acclament. Quelques instants après, il est mort. Et c'est fini. Donc j'ai essayé d'écrire un peu comme ça. Parce que c'est pas la peine d'en rajouter, quoi. Donc ça a été pas la partie la plus agréable du livre à écrire. Ça a été la plus difficile à écrire. Mais en effet, j'ai parlé aussi des massacres que j'ai racontés jour après jour.
Mais sans évoquer les massacres, ton livre est très très émouvant. Moi, il y a un chapitre qui m'a beaucoup plu. C'est le chapitre 33, qui s'appelle « Personne ne se souvient ».
C'est le dernier.
Ouais.
C'est la fin.
Et tu parles pas forcément des massacres, tu parles des gens quand ils étaient vivants. Et tu dis des choses très très belles. Et pour avoir lu beaucoup de livres de la commune et les auditeurs aussi certainement,
C'est un des rares, hein, ou un des premiers, où on parle des gens du peuple, quoi. Hein. Personne ne se souvient de leur nom, mais je sais qu'ils habitaient Belleville. Je voudrais pouvoir vous dire, elle était blanchisseuse, elle aurait aimé apprendre à lire. Personne ne se souvient de leur nom, mais je peux vous dire qu'ils vivaient près du jardin des plantes, un tailleur de pierre qui pratiquait la boxe française. Personne ne se souvient de leur nom, et pas vraiment d'eux non plus, eux du 18e arrondissement. La cuisinière qui n'aimait pas le vin, mais ne crachait pas sur un verre de rhum. La journalière de la rue Poupincourt qui aurait rêvé de cultiver son jardin et se demandait comment c'était un baiser sans moustache. Magnifique.
Oui, c'est pas facile de finir un livre comme ça, donc je vais peut-être même lire la dernière
oui,
phrase, puisque c'est la suite de ce que tu lis. Donc il y en avait une. Donc personne ne se souvient de leur nom, c'est une sorte de. Comment dire, d'anaphore. Personne ne se souvient de leur nom, mais je vais vous dire un ou deux mots. De cette brocheuse qui raffolait des pieds de cochon grillé et qui avait un carnet dans lequel elle notait ce qu'elle faisait ou pensait, le carnet aussi a disparu. Donc l'idée, c'était pas juste que disparu soit le dernier mot du livre, bien sûr, ça faisait partie de l'idée, moi, ça, c'est une idée bête, mais c'est surtout que ce qui a disparu, c'est le carnet, parce que en fait, c'est une époque sur laquelle c'est ça qui nous manque. C'est des témoignages de ces gens-là. D'abord, c'était avant l'école obligatoire, comme on l'a dit, donc il y en a beaucoup qui savaient ni lire ni écrire. Et puis, la répression a été telle que si par hasard il y avait quelqu'un qui avait écrit un petit journal ou un petit carnet comme ça, eh ben, évidemment, on s'est empressé de faire disparaître et non pas de dire « Ah oui, ma tante, elle avait un carnet, regardez !» Bien sûr que non. Donc tout ça a disparu avec ces gens-là. Parce qu'on parle toujours de littérature de témoignages, c'est à la mode maintenant à propos de la guerre de 14, parce que les gens avaient... Mais eux, ils savaient lire et écrire, et en plus, ils ont gagné la guerre, et puis, voilà. Ils sont morts, mais ils ont gagné la guerre. C'est pas du tout la même chose. Et c'est un moment où ce qui vraiment nous manque, c'est ça. C'est des témoignages. Alors on a un texte de Thès par-ci, par-là, on a deux, trois trucs, mais vraiment pas grand-chose. Et pourtant... Tous les gens qui vivent à Paris maintenant, ils ont un ancêtre qui a été communard. Il doit y avoir des choses.
Sauf des mouchards.
Et des gendarmes.
On ne voit plus
par les chemins.
Par les chemins. Que des vieillards.
Tristes en larmes.
Des veuves.
Des orphelins.
Paris suint
de la misère.
Les heureux mêmes
sont tremblants.
La mode est au...
Et de conseils de guerre.
Et les pavés sont tous sanglants.
Oui, mais sabre dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. On traque,
on enchaîne, on fusille.
Tout ce qu'on ramasse au hasard.
La mère à côté de sa fille. L'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur. De tous les chenapans de bouge. Valets de rois et d'empereurs.
Oui, mais. Sabre dans le manche.
Dissonance
avec
Michel Audin
sur Radio Saint-Afrique.
À un moment, tu écris, Michel Audin, je préfère être avec eux, les écouter. Parce qu'effectivement, il y a des écrits où les gens se sont permis, peut-être avec, c'était leur droit, de porter un jugement sur ce qu'avaient fait ces élus de la commune ou ces combattants de la commune. Toi, ça n'a pas été ton parti pris dans ton livre. Tu écris, page 48, je préfère être avec eux, les écouter. Même si parfois, dans le texte, tu mets des petits points de suspension qui font que tu as un regard critique.
Ah, mais j'ai un avis sur tout ça. On peut discuter à l'infini sur... Il aurait fallu... Alors moi, je me rappelle très bien quand j'étais petite, on m'a dit pas de subconditionnel en histoire. Donc si ils avaient marché sur Versailles, etc. Non, ça, on peut pas faire de l'histoire comme ça. Donc je peux pas faire ça. Je lis les procès-verbaux des réunions de la Commune de Paris et je me dis, mais bon, ils perdent leur temps, ils voient pas qu'ils ont pas le temps de discuter ces trucs-là, de recommencer à discuter. La grande habitude, c'était on vote un décret un jour, puis le lendemain on revient pour se dire, mais est-ce qu'on a eu raison de voter ça? On n'a pas le temps, c'est pas ça. On a voté un décret, c'est bien, peut-être il n'est pas bien rédigé, mais bon, avançons, quoi. On n'a pas le temps. Bon, ils ont pas eu le temps, et puis, peut-être, ils ont pas compris qu'ils allaient être massacrés tout de suite, ou peut-être certains l'ont compris, bon, je sais pas. Mais c'est vrai que oui, je suis critique sur, bien sûr, je suis pas béate devant la Commune.
Tu as évoqué, oui, mais c'était pas le propos de ton livre.
Bah, absolument.
Dans ce livre, tu as voulu les accompagner.
Avec eux.
Tu as évoqué les sources. Alors, les sources, ça a été certainement la BNF, les archives, etc. Mais il y a une source que tu évoques, qui m'a semblé intéressante, parce que moi, je suis tombé dans le piège, aussi comme beaucoup de gens qui s'intéressent à cette époque-là. C'est le journal officiel de la Commune de Paris, avec des facsimilés, des reproductions qui ont circulé, voilà. Et toi, tu as trouvé quelque chose d'intéressant.
En fait, c'est un de mes amis qui m'a montré ça, parce que c'est un de mes amis qui est ouvrier et qui a une très très grande culture historique sur le mouvement ouvrier et la Commune de Paris en particulier, qui m'a montré que ce que j'utilisais comme source, c'était pas une source. Et en particulier, puisque j'ai parlé de l'Académie des sciences, moi je voyais que mon journaliste, il écrivait plus sur l'Académie des sciences dans le journal officiel. Et je croyais qu'il était parti. Mais en fait, c'est pas vrai. Il continuait à écrire. C'est juste que ce que je disais, c'était pas la vraie source. C'était pas le vrai journal officiel. Et donc, je me suis aperçue à ce moment-là. Enfin, je me suis aperçue parce qu'on me l'a expliqué. Et puis, après, j'ai été voir, de mes yeux voir. Donc, il y a quelqu'un qui a publié, juste après la Commune, qui s'est mis à republier ce qu'il y avait dans le journal officiel parce que c'était plein de noms. Donc, il y avait plein de gens qu'on pouvait accuser et qu'on pouvait juger à cause de ça.
C'était un outil de répression.
Ah, c'était un outil de répression. Et donc, mais il a eu quelques idées géniales, donc le fait de faire un petit format, puis de le faire en livre, ce qui fait que c'est très maniable, c'était très pratique à utiliser. Ça a été utilisé par tous les historiens, mais vraiment tous les historiens. Au moment du centenaire de la Commune, ça a été republié par des éditions qui étaient tout à fait anti-versaillaises, je peux le dire. Et puis c'est utilisé. Bon, mais maintenant, depuis quelques jours... C'est un scoop, hein. Depuis quelques jours, le vrai journal officiel est même en ligne sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France.
Ah,
je sais pas si c'est grâce à Yves, à moi. Ils ont pas dit de grâce à qui c'était, mais je suis très contente. Et donc, vous pouvez consulter vraiment les sources et voir que, en effet, le journal officiel est paru. Donc, il y a les articles, il y a beaucoup de choses qui manquent, mais il y a des articles sur l'Académie des sciences, et puis deux articles sur les crèches, qui sont écrits par plusieurs personnes, dont Marie Averdure, qui est un des personnages principaux du livre.
Voilà. Je voudrais dire aussi un mot sur le style du livre. Moi, je le trouve fluide, avec ton narrateur, enjoué, avec tes amoureux. Bucolique quand tu décris la Commune avec les fleurs, il y a un passage passionnant. Émouvant quand le narrateur de 2017 est accompagné par le Lys Agaraï de 1871. Très documenté, notamment avec la longue liste des métiers exercés par les femmes de ce Paris. Très détaillé quand plusieurs journées sont décrites quasiment heure par heure. Très poignant dans le long texte « Personne ne se souvient ». Et je rajouterai aussi que tu as un style sonore, musical et envoûtant, quand tes mots emportent le lecteur dans une danse effrénée. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Il y a même eu un chapitre, la journée du 19 avril, qui ressemble à un film. Pour moi, j'ai trouvé des travelling, des plans larges, des plans rapprochés. J'ai l'impression que tu as pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à écrire ce livre.
Oui, alors j'ai déjà parlé. Bon, je dis deux mots des fleurs, peut-être.
Oui.
En fait, il y a eu c'était un printemps fabuleux, et donc il y avait des fleurs. Et quand on lit les livres d'histoire de la Commune ou sur la Commune, on s'aperçoit que, bon, à tel moment il y a des immortels comme ça, à tel moment il y a d'autres fleurs. Et donc j'ai essayé de faire une liste raconter l'histoire de la Commune juste avec des fleurs. Dites-le avec des fleurs.
Voilà, si je peux te couper.
Coupe.
je peux te couper. Alors, les immortelles rouges qui ornent les boutonnières et les canons des fusils des gardes nationaux en deuil, et les catafalques des enterrements de fédérés, l'immortelle est, comme son nom l'indique, la fleur du deuil. Les jeunes fleurs, car c'est le printemps, déposées à la statue de Strasbourg. Les aubépines au bout des fusils de gardes harassés. Les fleurs de lys, parce que les académiciens les étudient et les députés champêtres les aiment. Les moissons de fleurs qui encombrent les halles. Les coquelicots si éphémères parmi les fleurs que ce printemps de 1871, parmi les printemps.
Voilà. Et puis, il y a le chapitre dont tu as parlé, là, qui s'appelle « Nouvelles de Paris ». dans le, puisque si on parle du plaisir d'écrire, oui, puisque j'en parlais déjà du plaisir d'écrire à plusieurs autres endroits. Ouais. Donc ce chapitre, en fait, est, c'est marrant que tu dises cinématographique parce que en fait c'était plutôt en imitation des nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon. Qui est mentionné d'ailleurs lui-même dans le texte assez vite, donc qui écrit des nouvelles en trois lignes qui sont du style, je vais vous en lire une qui est vraiment qui est reprise dans le texte, juste une. Donc Félix Fénéon, c'était donc un écrivain et un journaliste qui anarchiste d'ailleurs qui a vécu un peu après. Il est né dans les années 1860, donc il était déjà né pendant la Commune, mais il était petit. Le genre de truc qu'il écrit, c'est ça. Un joueur de billard se crève l'œil gauche en tombant sur sa queue. Ce que j'ai essayé de faire, il y avait dans le chapitre d'avant une jeune femme à Londres qui se demandait ce qui se passait à Paris. Et elle voulait savoir concrètement ce qui se passait, chaque chose. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'était de raconter le 19 avril à Paris, sur ce ton-là, sur le ton Félix Fénéon. D'ailleurs, parmi les nouvelles que je donne, il y a le petit Félix Fénéon se réveille et calcule qu'il aura 10 ans dans 72 jours. Donc, j'ai essayé de faire un truc assez exhaustif avec la météo, les faits divers, ce qui se passe à la Commune, ce qui se passe... et puis l'état civil, parce que l'état civil, c'est une source fantastique. Voilà, qu'est-ce qui naît, qu'est-ce qui meurt, etc. Et donc voilà, j'ai mis tout ça en place, une méthode, qu'est-ce qu'elle est. Et puis voilà, ça raconte une journée de Paris, de 1h du matin au soir tard, et voilà. Et
oui, j'ai adhéré.
C'est toujours très... Chaque phrase est extrêmement... Le plus concise possible.
Ouais. J'ai trouvé ce bouquin très littéraire, très, très riche, très documenté aussi de façon dans le domaine historique, mais aussi jouissif par toutes ces contraintes que tu... Quelqu'un m'a dit, ou je l'ai lu, que c'était un livre oulipien.
Bon, le livre, je ne sais pas s'il est oulipien, mais bon, moi, c'est ma culture, l'Oulipo, je veux dire, le fait, si je ne me mets pas une contrainte... Alors voilà, l'Oulipo, ouvreur de littérature potentielle, c'est un groupe d'écrivains et de mathématiciens qui existe et survit depuis 1960, et bon, dont je fais partie. Pour moi, c'est un lieu de travail fantastique pour inventer des nouvelles formes et des nouvelles contraintes... j'ai utilisé pas mal de formes poétiques, en fait, dans ce livre, même si c'est pas complètement explicite. J'ai un peu de mal à travailler, à écrire sans avoir une contrainte. Même la contrainte, ça peut être je me promène dans Paris avec les sagarailles. Ça peut être je décris avec des fleurs ou ça peut être un truc plus formel. La description du 19 avril, c'est un truc, il y a une contrainte plus formelle, mais c'est comment utiliser à la fois la météo, l'état civil, etc. Mais ça n'a pas besoin d'être explicite. C'est juste ma façon d'écrire. C'est ce qui me permet d'écrire.
J'aimerais qu'on dise un mot avant de finir, Michel, de ton blog, Ma Commune de Paris, qui est un outil, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais incroyable.
Alors, bon, d'abord, Ma Commune de Paris, c'est une petite... Je suis pas vraiment responsable, mais j'assume. En fait, Emma, c'est mes initiales, donc pour moi, je voulais appeler ça Emma, enfin, dans le titre, le nom de l'URL, quoi. L'URL, je voulais Emma, Commune de Paris. Puis ça a fait Ma Commune de Paris. Bon, donc j'assume, c'est Ma Commune de Paris. C'est mon blog. Donc il se trouve que j'ai fait énormément de recherches quand j'ai écrit ce livre. Et donc je savais énormément de choses. Mais je savais beaucoup trop de choses. J'arrivais pas à écrire ce roman parce que je savais trop de choses que je pouvais pas mettre dans le livre. Et je savais pas comment faire. Et puis tout d'un coup, j'ai eu une inspiration géniale. Je me dis, je vais faire un site. Puis je vais raconter toutes ces choses dans ce site. Et puis, petit à petit, c'est devenu j'ai fait ça, j'ai écrit le livre, et puis petit à petit, c'est devenu un objet d'écriture lui-même. J'ai encore, je tiens ce blog depuis 2 ans maintenant, et j'en ai encore pour au moins 2 ans, sans problème. Même avec des astuces comme publier un journal tous les jours. Voilà, donc ça va. Il y a des informations sur la Commune de Paris dans ce blog.
Et c'est bien de mettre à la disposition du plus grand monde possible le fruit de ses recherches. Je trouve ça d'un altruisme.
Et les sources, parce que en fait, je suis accompagnée. Je suis solidaire d'un autre site qui est archiveautonomie.org. Si vous cherchez, c'est archive avec S et autonomie avec S, tout attaché.org, qui est un site qui s'appelle Fragments d'histoire de la gauche radicale. Je me reconnais pas dans toutes dans toutes les choses qui apparaissent là-dedans, mais qui est dont le but est de mettre justement des sources et en particulier des tas de journaux de toutes sortes et de toutes époques à la disposition du plus grand nombre. Et on avait commencé, enfin non, eux ils avaient commencé bien avant moi, mais au moment où j'ai mis le blog en route, on en a profité pour mettre en ligne des journaux communards et puis de mettre des liens entre les deux. Par exemple, en ce moment, je publie un journal qui est paru avant la Commune, qui s'appelle La Marseillaise. Le journal est intégralement sur archiveautonomie.org et j'ai ressaisi quelques articles qui sont sur mon site. Donc on a les... Voilà.
Il y a des mots, des masses de mots. Il y a des mots, des massiados. Il y a des mots comme s'il en pleuvait. Y'a des mots comme te quiero. Y'a des mots, c'est des couteaux. Que te matan en silencio. Mais pour ce qu'il y a entre sa peau et ma peau, y'a pas le mot. Y'a pas le mot qui tienne ni même celui-là.
Dissonance
avec
Michel Audin.
Michel Audin, tu es donc la fille de Maurice Audin qui a été arrêté en 1957 et dont le général Ossarès a dit avoir donné l'ordre de l'exécuter. C'était ton papa. J'ai lu sur Internet qu'en février 2018, un député, mathématicien comme toi, avait demandé à Monsieur Macron, le président de la République, de réouvrir les dossiers pour savoir qui avait tué ton père. En fait, je pense que c'est l'armée française.
Non, mais bon, tout le monde sait exactement tout le monde sait que... Peut-être je reprends l'histoire.
Donc
voilà, ça se passe à Alger pendant la guerre d'Algérie, pendant la bataille d'Alger, à un moment où d'ailleurs comme pendant la Commune de Paris, on avait donné les pouvoirs à l'armée, de police à l'armée, et donc il a été arrêté par l'armée française, et puis il a disparu. On ne sait pas. Il a été torturé, ça on sait. Et puis après, on ne sait pas. Donc il y a eu un simulacre d'évasion, mais ça a été démontré assez vite que c'était un simulacre d'évasion. Donc il était en effet aux mains de l'armée française et il a été tué. Et... Donc il y a deux questions. Il y a de savoir comment techniquement il a été tué. Et puis il y a une question que je ne trouve pas très intéressante. Et puis il y a une question qui est plus importante, c'est que la République reconnaisse sa responsabilité là-dedans. Donc c'est exactement ça qu'on attend d'un président de la République, qu'on a attendu de tous les présidents de la République jusqu'à maintenant et qu'on attend toujours d'Emmanuel Macron, en espérant que peut-être l'action de Cédric Villani, qui est le mathématicien député de En Marche dont tu parlais, que peut-être ça va aider. Mais bon, Villani n'est pas le seul à demander à Macron d'intervenir. Pas mal d'autres gens ont été consultés, en fait. Bon, il a consulté pas mal d'historiens et dont beaucoup, autant que je sache, lui ont dit qu'il fallait faire quelque chose. Mais c'est très difficile de prendre une position, que la République prenne une position sur la guerre d'Algérie. C'est extrêmement difficile parce que ça ouvre des tas de questions et donc il faut un courage politique que pour l'instant aucun président de la République n'a eu.
Mais s'il revint comme il était parti, bon pied, bon œil, personne d'averti, dans toujours la vive Marguerite, aux yeux toujours la flamme qui crépite, mais sur ta lèvre Aline un long baiser, mis sur la table un peu d'or étranger, chanta, chanta de chansons de marine, s'alla dormir dans la chambre enfantine. Puis il revint comme il était parti, bon pied, bon œil, personne d'averti, aux dents toujours la vive Marguerite, sur la flamme qui crépite. Réva du haut d'écume et de cavale, s'entortilla dans d'étranges rafales. Puis au matin, à l'heure où l'aube se devine, chanta et chanta de chansons de marine. Puis il revint comme il était parti, bon pied, bon œil, personne d'averti. Aux dents, toujours la vive Marguerite, aux yeux, toujours la flamme qui crépite. Fuit au pays son adieu saugrenu, et s'en alla comme il était venu. Fuit au pays son adieu saugrenu, et s'en alla comme il était venu.
Est-ce que pour toi, Michel Audin, la Commune de Paris, c'est un objet d'étude historique ou c'est quelque chose qui peut encore avoir de l'avenir, de par ses rêves, de par ses idées, de par son mode de fonctionnement, par ses espoirs?
Alors, le mode de fonctionnement, je suis pas sûre que c'était... que ça a été le meilleur possible,
mais ils ont essayé.
Oui, ils ont essayé. Non, mais hein, oui,
mais
oui.
Les élus révocables, c'est quand même. Hein. Maintenant, il y a des syndicats qui essaient de les mettre en place, mais déjà.
Les élus révocables, c'est bien, et puis que les élus viennent écouter ce que disent les gens dans les clubs, ça aurait été encore mieux, mais ils n'ont pas eu le temps de le faire. Donc bon. Non, oui, il y a des idées, mais plutôt du côté des clubs et du fonctionnement des clubs que peut-être du fonctionnement de l'Assemblée communale.
Donc, est-ce que c'est un outil d'avenir?
Oui, certainement.
C'est certainement.
Non, mais évidemment, l'avenir, c'est la démocratie. Donc, c'est la vraie démocratie, quoi. Pas la démocratie, le parlementarisme, mais la démocratie représentative.
Donc, longue vie aux idées de la Commune et longue vie aussi au roman de Michel Audin, Comme une rivière bleue, paru chez Gallimard, et c'est un roman.
Collection L'Arbalète.
Collection L'Arbalète. Merci Michel.
Merci.
Vous trouverez sur notre site radiosaintafrique.com des informations qui complètent notre émission, notamment
la liste des romans écrits par Michel Audin,
un lien vers son blog Ma Commune de Paris, et un autre qui vous renvoie vers le site de l'Oulipo.
Un lien vers le site évoqué, Fragments d'histoire de la gauche radicale, ainsi que d'autres informations concernant la disparition de Maurice Audin.
Cette émission est rediffusée mercredi 25 avril à 14h et samedi 28 avril à 16h.
Et bien évidemment, elle peut être podcastée en allant sur la page Dissonance de Radio Sainte-Afrique.
Salut
et fraternité.